dans les plans des lettres de Jean dans l'Apocalypse. Et je crois que c'est important aussi régulièrement de vraiment utiliser que nous avons une grâce, que nous avons réellement un privilège. Et puis, bien sûr, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais nous sommes conscients de ce privilège, nous devons en être reconnaissants au Seigneur. Et puis, simplement aussi, ne jamais oublier, c'est ce que dit la parole, n'oublions pas ceux qui sont prisonniers pour leur foi. L'apôtre Paul aux Colossiens dit, souvenez-vous de mes liens. Souvenez-vous de mes liens. Au Philippiens, il dit, c'est pour le nom de Christ que je suis dans les chaînes. L'Épître aux Hébreux dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier, de ceux qui sont maltraités comme faisant partie d'un corps. Et je crois que ce sont des réalités, certes, évidemment, on ne va pas se mentir, des réalités que nous n'aimons pas, mais qui sont non seulement réelles à la surface de la planète, et qui vont même grandissantes. Et ils ont besoin de nos prières. Alors ce soir, on ouvre l'Apocalypse, bien sûr. On ouvre l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 8. Ce sera notre dernière méditation concernant les lettres aux sept églises. Comme nous l'avons dit souvent, je le rappelle, ces sept églises sont sept d'églises que l'on a retrouvées tout au long de l'histoire et qui existent encore aujourd'hui à la surface de la Terre et surtout à la fin des temps. Et en considérant les sept messages qui sont adressés à ces églises, on s'aperçoit que ces messages, aujourd'hui plus que jamais, oui, ils sont d'actualité, ils ont toujours été d'actualité, mais aujourd'hui plus que jamais. Et puis, ce sera aussi, malheureusement, mais le Seigneur l'a annoncé, c'est aussi le cas pour l'église de Smyrne dont on va parler ce soir. Apocalypse au chapitre 2, les versets 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Et puis à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors la pauvreté, c'est au sens matériel, on va le voir. Bien que tu sois riche, c'est au sens spirituel dans lequel le Seigneur est en train de parler à ce moment-là. Et je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Juste pour rappel, nous n'avons pas, pour ceux qui nous rejoignent, nous n'avons pas étudié les Églises dans l'ordre où elles apparaissent. Il n'y avait pas de chronologie particulière. Nous avons simplement considéré dans un premier temps les églises, 5 sur 7, 5 églises qui entendaient de la part du Seigneur un appel solennel à la repentance parce qu'il y avait des points précis, des points extrêmement importants, préoccupants sur lesquels l'Église avait réellement besoin de se repentir. Et puis on s'était aperçu que entre Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, se profilait un engrenage descendant depuis Éphèse qui avait abandonné son premier amour, et on s'apercevait qu'il y avait un engrenage descendant, destructeur, qui était totalement logique au final. Et une fois qu'on a étudié ces églises, je vous avais dit, on gardera en dernier Philadelphie et Smyrne, qui sont les deux seules églises auxquelles le Seigneur ne fait aucun reproche. Pas d'appel à la repentance, le Seigneur n'a rien à reprocher à ces églises, il va simplement leur adresser un message d'encouragement. On a vu Philadelphie la semaine dernière, ce soir. Smyrne, aussi comme Philadelphie, est une église modèle, on peut le dire ainsi, vous allez le comprendre. Le Seigneur ne lui fait aucun reproche, vous l'avez lu, et simplement, il n'y a bien sûr aucun appel à la repentance, mais un message d'encouragement, quoique le message d'encouragement, faut l'entendre quand même, parce que le Seigneur lui dit, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Implicitement, le Seigneur dit, je ne vais rien faire pour que ça n'arrive pas. Merci pour l'encouragement, Seigneur. Mais un encouragement à tenir bon, à rester fidèle. Le Seigneur souligne déjà la fidélité, le courage, la patience de cette Église. Et comme si ce n'avait pas été suffisant, le Seigneur va insister pour qu'elle patiente encore, qu'elle soit encore fidèle, en mettant en exergue ces récompenses, ces richesses célestes et éternelles qui l'attendent. Et Smyrne, c'est réellement l'Église type, l'Église persécutée, c'est vraiment l'Église type dans la fin des temps. C'est peut-être Smyrne, l'Église qui est la plus représentée aujourd'hui à la surface de la terre. Smyrne, c'est l'Église qui est marquée par l'injustice et la persécution. J'aimerais pouvoir vous dire que ça concerne 50 ou 60 000 personnes, des chrétiens, frères et sœurs dans la foi dans le monde. Aujourd'hui, nous le savons, 360 millions de chrétiens sont persécutés d'une façon ou d'une autre à différents niveaux. Mais ça, c'est pour ce que nous avons. Il y a tous les faits qui nous fera remonter. Tout ce que nous ignorons encore, tout ce qui n'est pas dit. Il y a environ une dizaine d'années, Francovide, en tout cas, sur les rapporteurs officiels des différents organismes, nous disait clairement, les chiffres se recoupaient, qu'il y avait environ 200, 250, 260 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Mais ce chiffre augmente d'année en année. Et même pas 10 ans après, c'est pas 260 millions, c'est 360 millions de chrétiens qui sont persécutés, oppressés d'une façon ou d'une autre dans le monde. Smyrne, c'est l'église qui est certainement la plus représentée à la surface de la terre aujourd'hui. Cette église, elle est réellement marquée par l'injustice, par la persécution. Le Seigneur commence sa lettre en lui disant, je connais ton affliction. Selon vos traductions, vous avez affliction ou tribulation. Dans le grec, dans l'original, c'est ipsis, qui signifie littéralement persécution, oppression. Le Seigneur lui dit, ou souffrance, je connais ta persécution, ta souffrance. Pour comprendre, Smyrne à l'époque, Smyrne déjà évolue dans un contexte, plusieurs contextes extrêmement compliqués. Le premier contexte compliqué pour Smyrne est un contexte spirituel. Smyrne évolue dans un contexte spirituel très difficile. C'est une ville qui est connue pour sa méchanceté, son opposition à l'évangile. C'est une ville qui est idolâtre. Il n'y a, comme dans d'autres villes de cette Asie mineure, de cette Turquie actuelle à l'époque, il y a dans ces villes idolâtres une multitude de temples, comme le temple d'Artémis, le temple de la Diane à Éphèse. Ici, à Smyrne, il y a un temple particulièrement imposant, voué un culte à l'empereur romain Tibère. Et on sait qu'en toutes ces villes, beaucoup d'idolâtrie, c'est une région où il y a beaucoup de confusion religieuse, mais particulièrement à Smyrne, il y a cette confusion religieuse, mais il y a aussi, et c'est ce qui va expliquer la pauvreté matérielle de ces chrétiens, c'est qu'il y a un mélange notoire entre la religion et les affaires. C'est-à-dire que il faut savoir que dans l'histoire, c'est pas la Bible qui dit ça, hein, c'est l'histoire profane. Les commerçants de Smyrne, comme à la Odyssée par exemple, c'était des centres commerciaux très importants de ce bassin, et les commerçants de Smyrne avaient des affaires très florissantes. Mais ils avaient, excusez-moi de le dire ainsi, hein, ils avaient un petit peu leur charia à eux. Ils avaient leur loi religieuse qui régissait tout et qui était supérieur à tout. Et par conséquent, pour pouvoir rentrer dans leur cercle d'affaires, pour être leurs clients, pour qu'ils soient nos clients, pour pouvoir traiter des affaires, signer des contrats avec eux, il fallait embrasser leur religion. Si vous n'avez pas la même religion que nous, si vous ne vous prosternez pas devant les mêmes dieux que vous, forcément, on vous fermera toutes les portes commerciales et il fallait nécessairement pratiquer des cultes païens pour pouvoir ensuite prétendre faire des affaires avec tous ces gens qui étaient extrêmement influents et qui tenaient les clés commerciales de la ville. C'est pour ça qu'il est dit, beaucoup se disent juifs mais ne le sont pas, beaucoup de confusion religieuse au verset 9, beaucoup se disent juifs mais ne l'étaient pas, parce qu'en réalité, eh bien, certains pour pouvoir faire des affaires et tirer leur épingle du jeu, imitaient le judaïsme et se joignaient, se faisaient passer pour juifs. Et il y avait toute cette confusion spirituelle d'idolâtrie de ce monde gréco-romain, plus cette pression, pour ne pas dire même cette persécution du judaïsme, auquel s'ajoutaient aussi ceux qui n'étaient pas judaïsants de cœur, mais qui l'étaient simplement par intérêt pécunier. Donc il y a tout un contexte spirituel et commercial qui va amener ensuite ces chrétiens, ces authentiques chrétiens, disciples du Christ, à se distinguer par leur façon de vivre parce qu'ils ont refusé la corruption, ils ont refusé l'idolâtrie, ils ont refusé de plier le genou devant Tibère, ils ont refusé de plier le genou devant les juifs, devant le judaïsme qui les persécute ou devant les faux juifs qui veulent faire des affaires avec eux. Et dans tout cela, c'est pour ça qu'il est dit, et toutes ces calomnies, littéralement, c'est blasphémia en grec, toutes ces calomnies, Jésus dit, je connais, je sais. Toutes ces calomnies contre toi de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Calomnie, pardon, blasphémia, qui signifie calomnie, fausse accusation, discours injurieux contre le peuple de Dieu. Et c'est ce qui a été l'origine de leur persécution. Parce que ce sont des chrétiens qui sont restés intègres à ce moment-là. D'où cette expression synagogue de Satan. Ce groupement de personnes, gréco-romains, judaïsants, non-judaïsants, mais imitants, etc., qui, au final, s'étaient ligués et étaient devenus les ennemis de ces chrétiens de Smyrne. Et tout ça, c'était un moyen de persécution, de mettre une énorme pression sur eux. C'était un moyen de persécution entre les mains de l'ennemi. Quand le Seigneur lui dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, on ne sait pas évidemment si les 10 jours doivent être écrits au sens littéral, ou si c'est une mesure de temps. Vous savez que dans la Bible, il y a des mesures de temps différentes. Quand on lit le prophète Daniel, on sait très bien que les 70 semaines ne sont pas des semaines de jours. Donc, par moment, il y a certaines mesures de temps dans la Bible que nous prenons au sens littéral, et à d'autres moments, c'est prouvé, et non, c'est pas à prendre au sens littéral. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre les 10 jours? Ça, en réalité, on ne le sait pas, mais c'est pas l'important. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans l'histoire de Smyrne, et encore une fois, c'est pas dans la Bible, mais dans l'histoire, dans les livres d'histoire, on sait que tout de suite, au deuxième siècle, là, l'apôtre Jean, il écrit, on est en 95, 96, on est à la fin du premier siècle, il est sur l'île de Patmos, il est déporté pour sa foi. Et en réalité, tout de suite, au début du deuxième siècle, il y a un homme qui s'appelle Polycarpe, qui est un disciple direct, un héritier, entre guillemets, si vous me permettez, de l'apôtre Jean. On est au début du deuxième siècle. Et on sait que ce Polycarpe, qui a été pasteur de Smyrne, lorsque un nouveau vent de persécution a fait rage et s'est abattu sous le règne de Marc Aurèle, Polycarpe a tenu bon, il a refusé de fléchir le genou, il a fini martyr, il a été brûlé vif dans les années qui ont suivi ce que l'apôtre Jean a écrit. Donc, on sait effectivement, notamment par ce que la Bible dit, mais aussi par l'histoire, qu'il y a eu effectivement, réellement, une sérieuse persécution. Du coup, ces gens-là, refusant, malgré la persécution, vous voyez à quel point ils sont fidèles, vous voyez à quel point ils sont courageux, refusant la corruption, ils se retrouvent en plus de la persécution, ils se retrouvent dans des conditions matérielles précaires. C'est pour ça que le Seigneur dit, je connais ta pauvreté, il parle de choses matérielles, bien que tu sois riche. Parce que c'est une église qui est riche spirituellement, elle est riche de toutes les bénédictions d'en haut, elle a des bénédictions spirituelles, éternelles, incorruptibles, elle est riche de Dieu. Voilà le contexte de Smyrne, mais ces gens-là, en plus de l'injustice spirituelle qui les frappe, de la persécution, ce sont des gens qui ont extrêmement peu de moyens, qui sont à la limite même, je dirais, qu'on dirait aujourd'hui de la précarité. Parce que vu qu'ils ont tenu ferme et qu'ils ont refusé de m'habiller, eh bien, beaucoup de portes commerciales leur sont fermées. Et voilà l'état, pas spirituel, mais l'état dans ce monde de Smyrne et aussi son état matériel, bien le contexte général de son état. C'est pour ça que je vous dis que Smyrne, Moi, je dis ça, frères et sœurs, et je vous prie de m'excuser, je suis impressionné. Hein. Je suis impressionné. Des frères et sœurs qui sont, et il y en a combien de millions de par le monde, qui sont fidèles, qui sont courageux, qui préfèrent manquer plutôt que de magouiller, qui préfèrent manquer plutôt que de mentir, qui évoluent dans des contextes spirituels extrêmement malsains et matériels qui sont défavorables. Smyrne, ça signifie, c'est pas le mot Smyrne, hein, mais le message qui est là, Smyrne, ça signifie victoire sur l'injustice et sur la persécution. Smyrne, ça signifie l'Église qui a triomphé par sa fidélité, victoire, triomphe sur la persécution et sur l'injustice. Et cette Église ne s'est pas laissée arrêter. Cette Église ne s'est pas découragée. Elle a tenu bon. Elle est en train d'évoluer dans le pire. Le Seigneur lui dit, je connais ça. Et au verset 10, c'est comme s'il lui disait, mais il faut que je te dise, c'est pas encore fini. Il y a d'autres souffrances, il y a d'autres difficultés qui t'attendent. Verset 10, ne crains pas. Ah, pardon, je suis remonté trop loin. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Et sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Merci beaucoup, Seigneur. J'aurais préféré que tu me dises, le diable avait l'intention d'eux, mais ne t'inquiète pas, j'ai réglé le problème, ça ne t'arrivera pas. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Mais sois fidèle. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ces 10 jours, on ne sait pas si c'est littéral ou une mesure de temps spécifique. Ce n'est pas l'important. L'important ici, c'est que il y a. Bien sûr que ça nous heurte. Bien sûr que ça. L'important, c'est cette révélation. Et c'est un des sens. Un des objectifs même, des objectifs premiers du livre de l'Apocalypse, et notamment de cette lettre à l'église de Smyrne, c'est cette révélation du Dieu qui contrôle et qui maîtrise absolument tout, y compris l'ennemi de nos âmes. Jusque dans les moindres détails, Dieu est celui qui, dans les petites choses, je mets petit parce que ce qui arrive à l'échelle de chacun en fonction de sa foi peut paraître énorme, mais on ne peut pas comparer les souffrances les uns des autres. Mais dans nos circonstances, dans des cas extrêmes comme nous le voyons ici, Dieu se révèle toujours comme celui qui a fixé une mesure à l'épreuve. Il a fixé une limite interne à toute épreuve, quelle que soit sa nature, son origine, quelle que soit sa forme. Dieu se révèle toujours comme celui qui a mesuré la longueur de l'épreuve. Ça n'ira jamais au-delà de ce que Dieu a dit et permis dans ta vie comme dans la leur. Et en plus, non seulement il a mesuré la longueur, mais il a mesuré l'intensité de l'épreuve. Il a dit, tu ne seras jamais éprouvé au-delà de tes forces. Parce que je te connais mieux que toi. Mais le Dieu qui a mesuré longueur et intensité des épreuves, le Dieu qui a toujours prévu un moyen d'en sortir, avant même qu'on rentre dans l'épreuve, le moyen d'en sortir est déjà prêt. Ce Dieu-là dit, tu vas passer par ce genre d'épreuves, différentes épreuves, et on voit qu'il est celui qui contrôle parfaitement le temps, les puissances ténébreuses. Daniel dit, il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois, c'est-à-dire que Dieu a la mainmise de façon absolue sur n'importe quel roi, président, dictateur, fou furieux de ce monde, même de Pharaon. Dieu disait, je vais endurcir moi-même son cœur et lui et son armée serviront à faire éclater ma gloire et toute la terre sera Israël à un Dieu. Et on voit comment Dieu se sert de Pharaon, on voit comment Dieu, au travers du prophète Jérémie, écrit au sujet de Nebuchadnezzar, j'appelle maintenant Nebuchadnezzar, mon serviteur, pendant 70 ans, pour la déportation de Juda, etc. Et puis on voit que tout se déroule exactement à la lettre, comme Dieu l'a dit, 70 ans après. Une fois que Belshazzar, son descendant, une fois que Darius, tous ces royaumes s'effondrent les uns après les autres, Cyrus de Perse, Esdras, chapitre 1er, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Voilà. Et comme ça, bah, au bout de 70 ans, Dieu avait dit, pas un jour de plus, Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Cyrus regarde dans son pays. Il dit, c'est quoi tout? Je paraphrase, la parole, vous avez compris. Il dit, c'est quoi tous ces juifs qui sont du coup vous-même? Comment vous êtes arrivés là? Vous êtes le peuple de Dieu? Vous avez un Dieu? Vous avez... qui est de ce peuple? Qui est de la maison? Eh bien, rentrez chez vous. Prenez l'argent, prenez l'or, prenez les vivres, prenez ce que vous avez besoin, mais allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Et allez reconstruire le temple de votre Dieu à Jérusalem. Et il les a laissés partir comme ça. Et c'est encore même, c'est les Perses qui ont tout payé pour que. Quand Jésus est devant Ponce Pilate est offensé de ce que Jésus ne dit pas, ce que Ponce Pilate a envie d'entendre. Et à un moment, Jésus garde le silence. Et Ponce Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? N'as-tu pas compris que j'ai sur toi pouvoir de vie ou de mort maintenant? Je vais dire ceci. Et Jésus lui dit, mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si ça ne t'avait été donné d'en haut. La souveraineté de Dieu. C'est pas évident quand même. Hein? On aime bien le Dieu qui est souverain sur la maladie. On aime bien le Dieu qui agit, qui intervient, qui agit. Mais on voit aussi la souveraineté de Dieu dans des moments extrêmement difficiles. Et là, c'est le cas. Cette facette surprenante, pour ne pas dire choquante, et je ne manque pas de respect à la parole et au Seigneur, vous le savez, mais je parle de la façon humaine, cette facette surprenante, voire choquante, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu souverain, d'un Dieu qui dit pour que la chose n'arrive pas et qui dit pour que la chose arrive et qui ne, visiblement, ne va rien faire et tu vas avoir une nouvelle tribulation. J'attends une chose de toi, c'est que tu sois fidèle. Et on s'aperçoit, bien aimé, que cette réalité de la persécution, elle va grandissante. Forcément, plus on avance vers la fin des temps, plus cette réalité augmente. C'était une réalité tout de suite après la Pentecôte, en vérité. Hein. Dès l'effusion de l'esprit, dès que l'Église prend vraiment une forme dans la puissance et dans l'onction du Saint-Esprit, on s'aperçoit que c'est une réalité tout de suite, quasiment tout de suite après la Pentecôte, les formes des persécutions, même les plus violentes, se mettent tout de suite en place. Et en plus, c'était quand même clairement annoncé par Jésus à la fin de son ministère terrestre. Dieu a des champions bien aimés. Ça nous dépasse. Mais Dieu a ses héros à lui. Dieu a des champions. Pas des champions à la façon humaine. Des champions de patience, des champions d'endurance, des champions d'abnégation, des champions de renoncement, des champions de foi. Oh oui, quand on lit l'Épître aux Hébreux, c'est sûr, oui, on voit bien qu'il y en a certains ont vaincu des royaumes, ont fermé la gueule des lions, que certains ont ici obtenu des promesses, etc., etc., et un tel, et Gédéon, et... Et puis quand vous arrivez, que vous parcourez cette galerie des héros de la foi, et que vous arrivez au verset 35. Et certains ont recouvert leur mort par la résurrection, mais certains n'ont pas obtenu de résurrection. Mais ils ont été là, ici et là, errant dans les antres de la terre, lapidés, rejetés. Il n'y a pas d'enfant ce soir. Ils attendaient une meilleure résurrection. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, eux dont le monde n'était pas dit, les champions de Dieu, les héros de Dieu. Au-delà de tout ce que mon cerveau, mes 15 cm3 de cerveau peuvent comprendre. Les champions, les héros de Dieu, dans des mesures que je ne comprenais pas. Pourtant, Dieu forge, façonne ses héros, il pourvoit, il leur donne la force de supporter ce qui est humainement insupportable. Ce sont les héros, les champions de Dieu, les champions de Dieu, les champions de Dieu pour Dieu, pas à la façon humaine, pas dans les conceptions, dans les priorités humaines. Il les tient, il leur donne des capacités, des ressources intérieures, évidemment, on a bien compris, inimaginables par la puissance, par l'onction de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit en eux et sur eux. Acte 1,8, quand le Seigneur dit à ses disciples, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ce n'était pas seulement pour avoir le courage, pardon, témoigner de Jésus autour de nous quand l'occasion nous est donnée, quand. Voilà, parce que nous aimons les âmes, ce n'est pas témoigner au sens de parler. Littéralement, le texte grec dit martus. Martus, ce sont des martyrs. Alors Dieu sait ce qu'il demande à qui il le demande, évidemment. Et tout le monde n'est pas appelé à vivre ces choses dans des dimensions qui amèneront, dans quelle mesure, je ne sais, mais la Bible en parle, des dimensions de récompense éternelle que eux, ils auront, mais moi pas. Mais évidemment, il y aura quelque chose. Il y a quelque chose, ils ont un degré de renoncement qui est beaucoup plus fort sur la terre. Et une dimension comment dire, de récompense dans le ciel qui dépasse ce que l'on peut penser ou imaginer, parce que tellement c'est glorieux, tellement c'est fou, tellement c'est divin, tellement ça n'a rien d'humain aussi. Et par la puissance du Saint-Esprit, il en détient et leur donne des capacités, des ressources inimaginables. Même celle d'aller jusqu'au sacrifice, jusqu'à la mort, jusqu'au martyre, si c'est nécessaire. On sait aussi, bien aimé, dans ces points que j'évoque, que la persécution, comme je vous l'ai dit, est un signe de la fin des temps. Elle va progresser. C'est inévitable. Les quelques petites années que nous venons de passer, moins de 10 ans, nous montre en 10 ans 100 millions de chrétiens supplémentaires au niveau de la persécution. On sait que la persécution est un signe de la fin des temps et que cette persécution, en réalité, est la conséquence de la propagation, de la proclamation mondiale de l'Évangile. Quand vous lisez Matthieu 24, Matthieu 25, ce discours eschatologique, ce discours de la fin des temps de Jésus, on s'aperçoit que parmi les signes évoqués, la persécution est un signe de la fin des temps et que c'est directement relié à la proclamation de l'Évangile dans le monde. Et le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Et on s'aperçoit que plus l'Évangile progresse, même s'il y a encore aujourd'hui des peuples, des tribus, des dialectes qui ne sont pas atteints, on s'aperçoit que plus l'Évangile progresse et court avec vitesse, se propage dans le monde, parallèlement, plus la persécution va aussi grandissant. Parce que alors je sais bien que nous, on a l'habitude un petit peu de voir la France. Les problèmes, on voit nos problèmes à nous en France. On voit ce qui se passe, on voit ce qui ne se passe pas. On a l'habitude qu'il ne se passe pas forcément grand-chose. On ne vit pas une période de réveil, évidemment, d'accord, ok. Mais quand on regarde à l'extérieur, quand on ouvre les fenêtres de notre pays, quand on arrête de regarder notre monde français et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, frères et sœurs, il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit qu'aujourd'hui. Le demi-siècle qui vient de passer, les 50 dernières années, ont vu infiniment plus de conversions de chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas de sympathisants, vous avez compris, je parle de chrétiens, de gens authentiquement nés de nouveau. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens nés de nouveau qui confessent et qui vivent Jésus-Christ aujourd'hui. Dans ces 50 dernières années, il y en a eu plus que dans 2000 ans d'histoire du christianisme. Les 50 dernières années, à l'échelle mondiale, ont vu une montée de l'évangile extraordinaire. Et c'est ce qui explique aussi, et c'est sous le contrôle souverain de Dieu, qu'il y a aussi une propagation également de la persécution. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Ben, il va faire exactement ce que moi, je n'aurais pas fait. Le Seigneur va non pas faire quelque chose, mais le Seigneur va les secourir par sa parole et on va leur accorder un message extrêmement fort de révélation, pas de connaissances théoriques ou intellectuelles, mais un message puissant de révélation, un message qui est centré sur les réalités et les récompenses célestes, parce que c'est là que nos cœurs doivent vivre, c'est là que nos cœurs, que les yeux de nos cœurs doivent rester focalisés. Et le Seigneur attire, en contraste par rapport aux choses passagères, éphémères, corruptibles de cette terre, sur les réalités célestes qui sont incorruptibles, sois fidèle et je te donnerai la couronne de la vie. Et le Seigneur attire leur attention sur des récompenses éternelles. Et cette réalité, cette récompense, cette richesse spirituelle, éternelle, céleste, parmi toutes celles que nous avons, la plus grande et la plus belle de toutes, c'est Jésus notre Seigneur. L'Apocalypse, bien-aimé, commence par ces mots. Révélation. Apocalypse, apocalypsis, ne signifie pas fin des temps, ne signifie pas catastrophe mondiale telle que Hollywood le conçoit de façon stupide. Apocalypsis, apocalypse signifie révélation. Et avant d'être la révélation de ce qui va se passer dans les temps de la fin, c'est d'abord la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Et la plus grande de toutes les révélations, c'est Jésus dans sa gloire, c'est sa personne incomparable, glorieuse, c'est cette vision du Christ, glorieux, tout-puissant, ressuscité, dans son contrôle souverain, absolu, sur tout, sur tous, sur les choses de ce monde, sur ce chaos qui est en train de s'accélérer, sur les puissances ténébreuses. Et dans tout cela, l'Apocalypse a pour but premier de fortifier les chrétiens de la fin des temps. Et il leur apporte ce message puissant, c'est comme si le Seigneur leur disait, et peut-être à nous aussi, bien-aimés, parce que demain. Et le Seigneur dit, avec ce qui va arriver, avec ce qui va se passer, j'ai quelque chose d'extrêmement à vous dire. Je suis aux commandes, je suis au contrôle, je suis aux commandes de toutes choses. Monsieur commande du pire, je vous le dis, je vous l'annonce pour que vous le sachiez, pour que vous y croyez. Je ne suis jamais déstabilisé, je ne suis jamais surpris par rien. Et tout veut venir avant que ça arrive. Je ne suis jamais inquiété, je ne suis jamais ébranlé. Mon royaume est éternel, mon trône est sûr, solide et stable, et il est inébranlable. Et Jésus se révèle à chaque étape du livre comme le glorieux ressuscité, celui qui a le pouvoir absolu sur tout et tous, le maître de l'histoire avec un H majuscule sur tout et sur tous. Et c'est de cette révélation, bien-aimé, pas seulement dont ils ont besoin, c'est cette révélation dont nous avons besoin, chacun pour sa part, chacun à notre niveau, chacun dans ce monde. Nous traversons des injustices, il y en a à différentes échelles, à différents niveaux pour chacun d'entre nous, à différents moments de nos vies. C'est de cette révélation, de cette vision dont l'Église, même l'Église de France, a besoin dans les temps qui arrivent, maintenant et dans les temps qui arrivent. Cette réalité intérieure, gravée dans mon cœur par l'Esprit et la parole, Jésus règne, il est aux commandes. Et c'est aussi réel, cette vision intérieure, cette réalité de cœur, est tout aussi réelle, même bien plus réelle dans l'être intérieur. Il y a un feu, il y a quelque chose, une puissante conviction, une évidence qui est là à l'intérieur, qui est plus forte, même que la souffrance, même que le martyr, même que. Parce que ça transcende le visible. Ces frères et sœurs, il faut comprendre qu'ils vivaient, qu'ils vivent aujourd'hui, avec une dimension de révélation dans le cœur qui leur fait triompher de tout. Et c'est ce qui amène un gars comme Paul, pardon, un homme, un apôtre comme Paul, à dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je rends grâce à Dieu de ce que par Christ, il me fait toujours triompher. Et moi alors, il faut que je vive comme ça, il faut que je vive là, en bas, comme ça. Il faut que je sois toujours démonté par quelque chose, faut que je sois. Je peux pas vivre sans inquiétude, il faut toujours qu'il y ait un truc qui me balaye, qui me renverse. » Qui m'inquiète, qui me déstabilise. Et y aurait-il un Dieu pour Paul? Y avait-il un Dieu pour les gens de Smyrne? Y a-t-il un Dieu pour les persécutés au Niger? Y a-t-il un Dieu différent pour moi? Non, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, c'est la même vision, c'est la même connaissance de cœur qui va amener une plus grande paix, une plus grande confiance, qui va nous rendre plus forts, peu importe ce qui arrivera demain. et qui fera que l'Église, peu importe où elle est, peu importe ce qu'elle traversera, peu importe les temps et les circonstances, pourra tenir ferme, aura du courage, une révélation toujours à la hauteur de ce que l'Église doit traverser. C'est pour ça que je termine avec ça. Le Seigneur se présente comme le premier et le dernier. J'étais mort et je suis revenu à la vie pour leur dire, quoi qu'il vous arrive ici-bas, il y a une mort qui est plus importante dans l'éternité que ce qui est ici. Il y a des richesses dans l'éternité qui sont infiniment plus précieuses que celles que vous avez ici et après lesquelles, pardonnez-moi, vous êtes encore en train de courir parce que vous vous laissez mener bêtement par le pouvoir et par le diable. Et vous perdez votre temps. Pourquoi travaillez-vous aux choses de la terre? Travaillez, nourrissez-vous des choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, dit Paul, etc. Et il y a une mort plus importante. Il y a une vie plus importante. Il y a des richesses plus importantes. Il y a des récompenses plus importantes. Il y a une gloire plus importante. Et le Seigneur est là en train de leur parler, de les encourager, pour les amener à regarder encore et toujours infiniment plus haut et qu'ils soient fortifiés. Je suis le vivant. Des morts, je suis revenu à la vie dès le début de l'Apocalypse. Premier verset 5. Je suis le premier-né d'entre les morts. Verset 8. Je suis le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, j'étais mort. Je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Je tiens dans ma main. Ces gens risquent leur vie jour après jour. Et Jésus leur dit, regarde, je tiens dans ma main la mort et du souffle. Quelle gloire, quelle puissance, quelle triomphe d'avoir vaincu la mort et le seul Jésus, notre Jésus qui pour ça. Il l'a fait pour eux, il l'a fait pour chacun d'entre nous. C'est ce qui va les aider à tenir envers et contre tout cette glorieuse révélation du Seigneur de gloire, du Seigneur ressuscité. Là, oui, je comprends que Paul est dit et que ces chrétiens vivent ça. Je peux par celui qui me fortifie. Et nous, tous les quatre matins, parlons pour la vie, pour la mort. Enfin, je ne peux pas. C'est possible. Oh, on n'y arrivera pas. Oh, comment on va faire? Oh! Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est cet esprit qui vient en toi. Un esprit de capacité, un esprit de possibilité, un esprit d'éternité. C'est cet esprit qui vit en moi et qui veut me faire triompher de tout, qui m'amène une vie, non plus d'impossibilité, mais de possibilité par son esprit et dans sa grâce. C'est la promesse, non seulement d'une qualité de vie antérieure, puissance de ressusciter une vie présente, mais aussi la promesse de leur propre résurrection pour la vie éternelle. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Le Seigneur est en train de mettre en évidence qu'il y a, oui, évidemment, des récompenses, des richesses célestes, éternelles, incorruptibles, bien plus importantes que celles qui m'ont pris au camp ici-bas quotidiennement. Il est en train de montrer qu'il y a une mort qui est bien plus importante. C'est cette séparation, cette seconde mort, Luc chapitre 16, Apocalypse 20, etc. Je ne fais pas d'études sur le sujet, mais c'est extrêmement sérieux, c'est cette séparation éternelle avec Dieu. Le bannissement définitif, irréversible de sa présence. Parce que si ceux qui sont à Jésus, selon au siècle des siècles dans sa présence, dans une joie, une paix, une félicité extraordinaire, ineffable. L'Apocalypse, Jésus lui-même, tant de passages sont clairs sur le fait que ceux qui ne sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie, l'Apocalypse, seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles dans cet étang de feu, ce que Jésus appelle la guérison. Alors oui, il y a des réalités terrestres, mais les réalités célestes transcendent et de loin les réalités terrestres. Oui, il y a des difficultés, il y a des injustices, il y a des persécutions. Jésus n'a jamais rien promis de facile dans la marche du disciple ici-bas. Mais il a promis une vie infiniment supérieure. Il a promis des richesses supérieures. Il a promis une récompense éternelle largement supérieure. Et ces chrétiens de suivre. Pour moi, j'espère pour tous aussi, comme tous nos bien-aimés qui sont persécutés au travers du monde, sont des églises modernes. Parce qu'elles sont fidèles, parce qu'elles tiennent bon envers et contre tout, parce qu'elles sont courageuses. Le Seigneur, le Seigneur les bénisse, le Seigneur nous bénisse. Voilà, Smyrne, victoire sur l'injustice et l'injustice et la persécution. On va prier le Seigneur. Amen. Alors, bien sûr, des sujets à présenter.